Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, édition spéciale confinement. Salut Thibaut.
Et Guillaume.
Ça va?
confiné, mais ça va, on survit.
Avec ta voix lointaine, mais toujours là, toujours aussi chaude et aussi rassurante. Non, très sérieusement, on était un peu parti rapidement hein, avec Cinécast parce que forcément, je pense qu'on était, j'étais absent une semaine et puis il y a eu le confinement. Du coup, on n'a pas pu enregistrer de nouvelles critiques cinéma. Forcément, il n'y a pas de nouveaux films qui sont sortis.
Et puis, pendant le confinement, j'ai longtemps été sans ordinateur aussi, ce qui est très pratique.
Oui, très très pratique. Mais maintenant, t'as un nouveau PC, un tout nouveau PC, donc on va pouvoir reprendre les enregistrements à distance. Donc, on ne sait jamais qu'il y a un petit problème technique, c'est possible. Hein. Excusez-nous du peu si jamais ça ne marche pas super bien, mais on fait des essais. Et pour ces nouveaux enregistrements, on s'était dit, est-ce qu'on ne parlerait pas de films qu'on a vus à l'époque, qui ne nous ont pas fait une impression de malade, hein, quand on les a vus. Ce ne sont pas des films qui sont rentrés dans notre collection Ultimate, mais... Au fil des années, un peu comme le bon vin, ils sont devenus meilleurs, ou en tout cas, on a une meilleure vision sur ces films-là. Et on a décidé de commencer aujourd'hui, en donnant une seconde chance, à Kingdom of Heaven, film de Ridley Scott, qui était sorti en 2005. Film épique, hein, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un film qui parle notamment de... c'est pas vraiment la croisade, c'est avant la troisième croisade, hein, c'est le siège de Jérusalem, en grande partie. Pourquoi ? Parce que ça raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui est en France, hein, qui est précipité dans un conflit. Pourquoi ? Parce que son père, son vrai père, qu'il ne connaissait pas, arrive et directement le fait chevalier. Et en tout cas, sa mission, c'est de protéger Jérusalem. Et donc, il va jusqu'à Jérusalem. Et là, il constate assez rapidement que le roi Baudouin, le lépreux, est en mauvais état. Il y a plein de conflits qui commencent un peu à sortir de tous les côtés dans la région, et notamment Saladin, qui est le grand méchant, si je puis dire, qui représente les musulmans, hein, qui voudrait reprendre Jérusalem. Et donc, c'est un peu un Game of Thrones à Jérusalem, ce film.
En parlant de Game of Thrones, il y a quand même pas mal d'acteurs qui jouent dans la série.
Ah oui, il y a Nicolai Coster-Waldau, c'est ça, un truc comme ça?
Oui, ouais, il y a Nicolai Coster-Waldau, il y a Ian Glen aussi, qu'on voit un tout petit peu à la fin, qui incarne Richard Cœur de Lion. Et il y a d'autres personnes, mais voilà. Écoutons un extrait de la bande-annonce.
Écoutons ça tout de suite.
Soyez sans peur, face à vos ennemis. Debout, chevalier! Debout, chevalier!
Qu'adviendra-t-il de nous?
Le monde en décidera. C'est toujours le monde qui décide.
Que t'a dit ton père de tes obligations?
Que je devais être un bon chevalier.
Alors Thibaut, Kingdom of Heaven, c'est un film que, à mon avis, beaucoup d'entre nous ont vu, ou en tout cas, ils ont entendu parler, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était vraiment dans la même période que, forcément, le Seigneur des Anneaux. On était presque au retour du roi à ce moment-là. Je crois qu'on y était, d'ailleurs. Donc, c'était vraiment des films épiques. Ridley Scott avait fait Gladiator, maintenant, il nous fait Kingdom of Heaven. Donc, on attendait ça avec impatience. Un tournage pharaonique qui était fait au Maroc, en Espagne, etc. J'avais eu l'occasion, d'ailleurs, d'aller visiter le plateau. À Ouarzazate lors d'un voyage.
Pareil,
voilà. Donc c'était assez impressionnant, c'est vrai, de voir tout ça. Et c'est tout à fait le genre de film des fresques qui donnent envie. Et pourtant, quand on l'a vu au cinéma, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, j'avais été un peu déçu. J'avais certainement apprécié les visuels, mais à l'époque, on avait quoi, 14 ans, donc c'était peut-être pas, on n'avait pas une connaissance aussi grande que du cinéma qu'aujourd'hui. Mais j'avais pas été sur le cul, hein, pour dire autrement, par ce film-là, je trouvais qu'il n'était pas 100% cohérent. Et donc, tu m'as invité à regarder maintenant la Director's Cut pour peut-être changer tout ça. Mais toi, quelle était ton impression du film d'origine ?
Alors, à l'époque, moi, j'étais à fond dans les films épiques, péplum, les grandes fresques à costume et tout. Donc, forcément, c'est Seigneur des Anneaux, même pas besoin d'en parler. Et Orlando Bloom sortait d'autres gros films quand même. Il y a eu Pirates des Caraïbes, il y a eu 3. Et je pense que c'est à la fin du tournage de 3 qu'il a reçu le scénario de Kingdom of Heaven. Au début, il n'était pas hyper chaud parce qu'il venait de se taper 4-5 gros films en costume. Et je pense que le gars, il s'est dit, bon, il est peut-être temps d'arrêter. Et puis, ben, t'as Ridley Scott qui arrive, forcément, tu c'est réfléchis ça, un peu plus et tu dis oui. Et du coup, vu que j'étais quand même à fond dans ce... dans cette phase, enfin j'étais dans cette phase voilà, de film à costume épique, péplum, tout ce que tu veux, j'avais quand même plutôt bien aimé le film à l'époque, même si effectivement il y a des... il a ses défauts, hein, et on va en parler plus longuement, mais globalement il m'avait fait une impression assez, assez correcte. Et cette impression correcte, elle vient notamment de grandes scènes que Ridley Scott sait si bien réaliser, mais c'est clair qu'au niveau de l'histoire, là il y avait quand même des petits soucis, on va pas se mentir.
Oui, il y a des petits soucis dans la... Enfin, c'est sûr que là on a une deuxième vision, parce que nous on l'a vu maintenant en version Director's Cut qui dure 3h15 si je m'abuse à peu près.
Ouais, 3h10, quelque chose comme ça.
Et la version ciné était à 2h20, donc c'est quand même presque 45 minutes de plus au montage, donc c'est pas rien. Hein. On n'est pas dans les 3-4 scènes ajoutées d'une version longue lambda, on est vraiment dans un gros morceau du film qui a été remis par le réalisateur. Ouais. Et c'est assez étonnant, tu m'avais parlé de deux montages en permanence lorsqu'ils ont fait le film, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors en fait... Ridley Scott a assez vite senti que la Fox, enfin déjà senti, que la Fox ne le laisserait pas faire exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour la Fox, c'était quasiment inenvisageable d'avoir un film de plus de 2 heures. Bon, finalement, la version ciné fait quand même un peu plus de 2 heures, mais avoir plus de 3 heures, c'était impossible, c'était du rêve absolu. Mais au début, quand Ridley Scott a commencé à travailler sur le scénario avec William Monahan, qui est aussi le scénariste des Infiltrés, de Scorsese notamment, Monahan avait senti l'obligation pour lui, enfin c'était nécessaire par rapport à toute l'histoire, d'écrire la backstory, les origines du personnage de Baylan, le personnage d'Orlando Bloom. Et c'est pour ça que dans la Director's Cut, il y a au moins 20 minutes, une demi-heure au moins 20 bonnes minutes de film qui se passe avant qu'il ne décide de partir en croisade. Alors que dans la version cinéma, c'est même pas 10 minutes. Et du coup, vu que Ridley Scott a très vite su qu'il ne pourrait pas sortir au cinéma le film qu'il voulait, il a fait avec sa monteuse deux montages en parallèle, c'est-à-dire le montage pour la sortie cinéma, le montage qui est donc pour le studio, et le montage que lui voulait, et qui est donc cette Director's Cut qui est exactement le film qu'il voulait faire dès le départ, en fait, mais que Fox n'a pas laissé faire.
Et c'est vrai, voilà, que c'est important, tu le dis, il y a deux éléments du film qui changent énormément. Le premier élément, pardon, c'est la backstory du personnage de Bélienne, qui a perdu sa femme, hein, qui s'est suicidée suite à la perte de leur enfant. Et donc ça, on comprend dans les deux versions du film, hein, c'est sûr, mais dans la version longue, là, on a vraiment une provocation de la part du prêtre, qui est également son frère. Hein,
voilà. Chose qu'on ne comprend absolument pas dans la version cinéma, on ne sait pas que c'est son frère. Hein.
Exactement, on ne sait pas que c'est son frère.
Dans la version ciné, il a juste 3 petites scènes et tu ne comprends pas trop pourquoi ils sont en conflit. Et il le tue et c'est plié, quoi. Donc,
bon. Et surtout que c'est un personnage qui, à la base, est non-violent, il se laisse faire quand on l'interpelle et tout. Et là, en un coup, il tue son frère et il tue le prêtre du village. C'est quand même un crime assez énorme pour l'époque. Enfin, même aujourd'hui. mais voilà, quoi. Et donc, on se demande un peu d'où ça sort. Pourquoi est-ce qu'en un coup, il prend son épée et il tue le prêtre? Alors que justement, dans la version longue, cette intro dure quand même 15-20 minutes. Et là, on a beaucoup plus le temps de comprendre en quoi son frère est toxique et en quoi le prêtre du village a vraiment abusé sur ce coup-là en coupant la tête de sa femme morte, etc. Enfin voilà, il a vraiment été trop loin. Et on comprend du coup qu'il a envie de se racheter en allant justement à Jérusalem et en effaçant tous ses péchés, quoi. C'est ouais, sa motivation numéro un.
Mais c'est assez dingue de constater quand c'est 20-25 minutes de préambule dans la Director's Cut, t'as limite plus d'émotion que dans toute la version ciné, quoi. Parce que tu comprends... Enfin, je pense que tous les gens qui regardent la version la Director's Cut ont déjà vu la version ciné, et forcément t'as beaucoup plus de choses qui prennent sens à ce moment-là, quoi. Donc, tu rien qu'en 20 minutes, toute la enfin, tout n'est pas expliqué, tout n'est pas justifié, mais il y a énormément de richesses et c'est bien mieux d'un point de vue émotionnel pour le spectateur.
C'était le gros reproche à l'époque, hein, des critiques cinéma. J'avais été relire quelques critiques du film. C'était vraiment, oui, c'est magnifique, c'est bien tourné, c'est épique, mais il y a rien, quoi. Il se passe rien, il y a rien en émotion, il y a rien en contenu. C'est un gâchis, etc., etc. Et alors qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde la version longue, moi j'étais très vite investi dans le film. Enfin, je m'attendais à ne pas trop l'aimer parce que je m'attendais à revivre la même expérience que la première fois que je l'ai vu. Et en fait, au bout des 15 premières minutes, bah, j'arrivais pas à décrocher mes yeux de l'écran, quoi. Donc je me disais, ok, il y a un truc qui se passe qui s'est pas passé la première fois, quoi.
Ah
Donc
non, c'est sûr.
ça, c'est vrai que on le conseille pour ça notamment de revoir Kingdom of Heaven en version longue. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'intro qui a été revue.
Non.
Il y a beaucoup d'informations plus tard dans le film. On va pas essayer de trop spoiler parce que si jamais vous avez envie de revoir le film, ce serait bête de tout vous dire maintenant, hein, sinon il n'y a pas beaucoup de plaisir. Mais très concrètement, lorsqu'il arrive à Jérusalem, Belian rencontre le personnage de Sibyl, qui est joué par Eva Green,
Ouais.
qui donc est la princesse, hein.
Oui, enfin, c'est la sœur de du roi Baudouin.
Exact. Et le roi Baudouin qui est joué d'ailleurs par. Je reconnais sa voix en anglais, mais j'arrivais pas à savoir qui était derrière le masque, parce qu'il porte un
Ah
masque
ouais.
vu qu'il est lépreux. Et en effet, c'est Edward Norton, hein, qui joue le rôle du roi Baudouin.
Ouais, qui à l'époque avait demandé à ne pas être crédité. Donc, si tu regardes le générique de la version cinéma, normalement, il n'est pas dedans. Par contre, après, ils l'ont remis ensuite dans
Et
pour
pourquoi?
les DVD, etc. Parce que, enfin, voilà, c'était, enfin, je vais pas dire que c'était un service qu'il rendait à Ridley Scott, mais c'était une performance liée entièrement sur sa voix et son regard, hein, parce qu'il fait quand même passer beaucoup de choses via son regard, je trouve, dans le film, alors qu'on voit pas une seule fois son visage, etc. Voilà, ça fait partie des petites histoires du cinéma, c'est tout.
Et donc, Baudouin est le roi de Jérusalem, et Sibyl est dans une situation un peu particulière, puisqu'elle est, elle est mariée à, j'ai oublié son nom, c'est
À
Guy,
Guy de Lusignan.
Guy de Lusignan. Donc, ils ont des noms très français, mais ils sont pas du tout français. C'est d'ailleurs, il y a
Si.
Brendan.
Ah oui, non, les comédiens, non.
Oui,
À
c'est
part
ça.
Eva Green, qui, d'ailleurs, le personnage de Sibyl dit ne jamais avoir été en France. C'est assez marrant vu que c'est la seule française du casting. Enfin, non, c'est pas la
C'est
seule
pas
française du
française.
casting. Il y en a d'autres, mais voilà.
Ouais, et il y a aussi Brendan Gleeson hein, qui joue de Reynald,
Reynald de Châtillon. Ouais.
Reynald de Châtillon. Merci que heureusement que tu es là pour les noms parce que c'est des noms assez épiques.
D'ailleurs, il y a aussi il y a Jeremy Irons qui est aussi au casting, qui joue l'intendant, on
Yes.
va dire, de Jérusalem. Le personnage du enfin, le nom du personnage dans le film, c'est effectivement Tibérias. En réalité, il avait un autre prénom qui commençait aussi par R, je pense. Et du coup, pour pas perturber les spectateurs, vu qu'il y a déjà Rano de Châtillon, comme hein, disent les Américains, ils ont changé le prénom du personnage de Jeremy Irons par Tibérias.
Donc, la première partie du film, on l'expliquait, c'est Belian qui quitte la France pour rejoindre Jérusalem. C'est un peu une aventure épique avec Liam Neeson dans le rôle de son père qui est un peu comme dans Batman, hein, lui apprend à se battre. Une fois qu'ils arrivent à Jérusalem, ça devient vraiment Game of Thrones. Ça, c'était vraiment la sensation que je me suis fait. Bon, forcément, c'était avant Game of Thrones, hein. Mais on a justement Tibérias qui est l'intendant du roi, qui est un peu son bras gauche, enfin son bras droit, pardon, pas bras gauche, bras droit. Et puis il y a des petites guéguerres internes avec justement Guy de Lusignan, etc., qui aimerait bien prendre le contrôle, aimerait bien faire des guerres, provoquer vraiment la bataille. Puisqu'il faut savoir que
Mais c'est
Baudouin jusqu'ici est assez pacifique. Enfin, il entretient des bonnes relations entre guillemets avec le monde arabe, quoi.
ouais, c'est
Donc là,
ça.
il
Il a réussi à instaurer une paix avec Saladin, qui tient grâce à ses bonnes relations. Et pour Guy de Lusignan, c'est pas bien d'être en paix avec les musulmans. Lui, il veut juste tous les dégommer, hein, disons-le clairement,
suprématie, quoi. Exactement.
et prendre le pouvoir absolu, pouvoir de terreur, etc. Ce qui évidemment va créer de gros soucis par la suite, parce que au moment où Baudouin va mourir de par sa maladie, donc la lèpre, dans la version cinéma, c'est directement Guy de Lusignan qui prend le pouvoir. Parce que voilà. C'est le frère, enfin parce que c'est le mari de la sœur du roi. Donc voilà, ça c'est le gros raccourci de la version cinéma.
Énorme raccourci. Et là on peut le dire, on va un peu spoiler, donc si vous voulez voir le film, bah, peut-être faites pause maintenant, allez voir le film et puis revenez, ou bien allez juste voir le film. Non,
ça va pas vraiment être du spoiler, mais pour faire simple, sans rentrer dans les détails, il y a tout un arc narratif qui concerne le fils de Sibyl qui est complètement absent de la version cinéma et qui c'est malheureux parce que ça justifie et ça explique énormément de choses, notamment les sacrifices que Sibyl fait. Parce que dans la version cinéma, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu la vois à la fin, pendant la grande bataille de fin, tu la vois en train de soigner des malades avec les cheveux coupés, limite elle se cache, et tu ne comprends pas pourquoi elle fait ça dans la version cinéma, ça n'a aucun sens. Mais quand tu vois tout cet arc narratif qui concerne son fils et des sacrifices qui vont être faits relatifs à ce fils, tout prend son sens et t'as énormément d'émotions liées à ça. Donc le reproche fait à la version cinéma comme quoi il n'y a pas assez d'émotions, bah ouais, c'est normal parce qu'en fait elle est globalement liée à tout ce qui a été supprimé.
Voilà, donc ça c'est sûr que c'est rare, hein, des films comme ça qui changent tellement de la version ciné à la version Director's Cut, parce qu'on avait parlé un peu ensemble. Il y a certains films comme ça où il y a des différences, il y a George Lucas qui aime bien un peu revenir sur ses Star Wars en rajoutant des trucs ou quoi, mais bon, c'est souvent du fanservice, c'est souvent quelques scènes qui effectivement auraient pu être coupées sans trop de problèmes, mais ici, là, c'est vraiment comme on l'a dit, c'est un épisode entier de Game of Thrones qui a été coupé du film, quoi. Et dans cet épisode-là, il se passe des choses, quoi. Il y a le fils de Sibyl, il y a justement au début du film la relation avec le frère de Belion. Enfin, il y a des informations très importantes qui changent la lecture du film.
Et il y a aussi un personnage que j'aime beaucoup dans le film, qu'on voit pas tant que ça au final, mais même si c'est un des gros second rôles, c'est le personnage joué par David Thewlis. Donc David Thewlis, c'est celui qui joue Lupin dans les Harry Potter. Il a le rôle du chevalier hospitalier, qui est donc lui c'est le bras droit de Godefroy d'Ibelin, donc le père du personnage d'Orlando Bloom. C'est lui qui gère un peu le domaine, etc. Et donc les hospitaliers, sont des chevaliers religieux, enfin liés aux croisades, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans la version Director's Cut, c'est que ce personnage prend une espèce de dimension mystique, d'une certaine façon. Il y a une scène où Balian est dans le désert, limite un peu, pas perdu, mais voilà, en méditation, il se remémore des souvenirs, etc. Et puis, ou alors il était assoiffé dans je sais plus exactement, enfin bref. Et puis à un moment le personnage d'hospitalier vient, il discute un petit peu, et puis à un moment on se rend compte qu'il disparaît presque, et je pense qu'il y a vraiment une espèce de il y a ce côté un peu angélique et religieux qui manque à la version cinéma, qui est beaucoup plus présent ici. Et voilà, je trouve vraiment que c'est un personnage hyper intéressant hospitalier, et c'est dommage que ce genre de choses ait été coupé dans la version cinéma.
C'est clair, et puis comme tu le disais, voilà, il y a quand même un gros casting, hein. On en avait mentionné plusieurs rôles, hein, Liam Neeson, Eva Green, etc. Et je trouve honnêtement que le seul couac de casting que là je reste là-dessus, ça reste Orlando Bloom. Moi je suis pas convaincu par Orlando Bloom dans ce film. Il communique pas très bien ses émotions, et quand il le fait, c'est souvent un peu gros, je trouve. C'est souvent le regard du mec qui regarde dans le vide, ou le regard du type qui est attristé. Enfin, mais c'est... Allez, je suis pas convaincu par ses talents, peut-être. Mais en tout cas, je suis pas. Voilà, il m'a pas convaincu dans son rôle, et c'est le seul point noir pour moi au tableau. C'est Orlando Bloom qui est un peu lambda. Mais ça aussi c'est important, le film version ciné se concentre pratiquement entièrement sur Orlando Bloom, hein, c'est son épopée. Ici, ouais. La version longue implique plusieurs personnages, on est comme dans un épisode de Game of Thrones, on voit plusieurs perspectives, plusieurs personnages, et ça change vraiment la lecture aussi.
Ah, c'est sûr, mais je suis pas complètement d'accord sur Orlando Bloom, parce que il joue un personnage qui est plein de doutes. Lui, son unique but, c'est la rédemption. C'est que sa femme n'aille pas en enfer. C'est que, enfin voilà, c'est de sauver son âme. Donc forcément, Jérusalem a un caractère très important par rapport à ça. Et donc voilà, en fait, il va se rendre compte que bah, Jérusalem, c'est peut-être pas complètement ce à quoi il s'attendait et ce qu'il espérait. Et donc voilà, il joue un personnage qui a certaines attentes, qui doute beaucoup, et puis qui se rend compte que tout ne correspond pas à l'idée qu'il s'était faite. Et je trouve que son jeu reste quand même relativement en adéquation avec ça. Donc voilà, je trouve pas qu'il soit particulièrement mauvais. C'est pas le meilleur acteur du monde non plus, hein. Mais je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot ici.
Thibaut, parlons aussi un peu de la musique, mine de rien, parce que c'est une musique tout aussi épique que le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette composition assez originale, du coup ?
Elle est complètement épique, ça c'est sûr. Et je trouve que Harry Gregson-Williams a fait un excellent boulot. Chaque fois que j'écoutais de musique, je suis dans un autre monde, je suis replongé dans le film. C'est une BO que j'écoute assez souvent quand même. Parce que voilà, elle est tellement magnifique que c'est juste un plaisir de l'écouter quand je travaille par exemple ou autre.
L'autre BO, il a fait par hasard ? Comme ça
pour... il en a fait plein, mais pas forcément des BO hyper marquantes, hein, mais il a pas mal composé pour le frère de Ridley Scott, donc Tony Scott. Pour Antoine Fuqua aussi notamment, pour Joel Schumacher, bref, il y en a quelques-uns. Il a quand même une grosse filmographie, mais on va dire que le réalisateur pour lequel il a été le plus fidèle, c'est Tony Scott. Voilà. Et il a rebossé par la suite avec Ridley sur Seul sur Mars notamment.
Voilà. C'est vrai que après quand j'étais voir la filmo de Ridley Scott, bon, je connaissais la plupart de ses films, mais c'est assez impressionnant la filmo de Ridley Scott, tous les films différents qu'il a pu faire et des films qui ont marqué quand même le cinéma. Ouais. C'est clair que c'est un énorme réalisateur.
Il fait souvent des director's cut, hein, d'ailleurs. Je l'ai pas encore vu, mais ce sera bientôt le cas. Ce que je vais recevoir l'édition bientôt. Seul sur Mars a une director's cut. Blade Runner a au moins deux autres versions que la version ciné. Son Robin des Bois a aussi une director's cut. Et chaque fois, clairement, tous ces films prennent une autre dimension quand tu vois ces director's cut, parce qu'elles sont très très bien. Très très bien faite et vraiment beaucoup plus riche. Donc voilà, Ridley Scott, quand vous voyez qu'il fait une director's cut, une version longue, faut pas hésiter, faut vous plonger dedans directement, quoi.
Qu'est-ce qu'on lui donne comme note du coup à Kingdom of Heaven version longue ?
Mais très franchement, alors même s'il me manque quelques-uns des films de sa filmographie, je trouve que c'est un des meilleurs films de Ridley Scott. Hein. C'était pas la première fois que je la revoyais, hein. Là, je l'ai revu il y a deux jours. Je l'avais déjà vu avant, et ouais, franchement, moi, ça fait certainement partie du top 5 des films de Ridley Scott, sans aucun souci, donc un très très bon 4 étoiles.
Oui, j'en ai aussi 4 étoiles, et la version ciné, c'est vrai qu'à l'époque, si j'aurais dû la coter, je serais plutôt à 2 ou 3 max, hein, mais là, c'est vrai qu'on passe à 4 étoiles direct. Ça devient un des grands, grands films classiques de Ridley Scott, et un film qu'à mon avis, je vais revoir, ça c'est certainement. Et on vous encourage d'ailleurs... à le voir, hein, mesdames et messieurs, ouais. Nos auditeurs, à aller voir du coup la version longue de Kingdom of Heaven. Et on continue à ce format tant que le cinéma ne réouvre pas. Ce format film par film, la semaine prochaine, on vous parlera de Miami Vice, si je me trompe
de
pas.
De Michael Mann.
Michael Mann, le bon vieux Michael Mann qui nous a fait un film adapté de la série télé. Hein, c'est...
Ouais.
C'était la grosse mode aussi, hein, ça, il y a quelques années, de faire des adaptations de séries télé au cinéma.
Et donc, voilà. Alors, Michael Mann avait déjà bossé sur la série à l'époque. Si je ne dis pas de bêtises, je pense même qu'il avait fait le pilote. Alors, ça, j'en suis pas certain. Mais il avait réalisé des épisodes de la série, ça c'est sûr. Et on en parlera évidemment plus longuement la semaine prochaine. Mais c'est un film qui, effectivement, à sa sortie, je l'avais moyennement aimé. Mais je l'ai revu par la suite et je vais le revoir encore d'ici la semaine prochaine. Et très très clairement, Je l'ai bien réévalué aussi. Et n'hésitez pas à nous donner des suggestions de films que vous estimez qu'ils sont un peu underrated, sous-estimés, et qui, voilà, qui ont évolué dans le temps et souvent pris une autre dimension ou sont plus appréciés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner vos recommandations.
Voilà, voilà, c'était tout pour cet épisode seconde chance de Kingdom of Heaven. On se retrouve la semaine prochaine pour Miami Vice. À très bientôt.
À bientôt.